إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous avons commencé la semaine dernière une introduction sur le livre Les 40 Hadiths de Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Et nous allons commencer bi'idhnillah à lire le premier hadith qu'il a énoncé dans son livre, qu'il a cité dans son livre. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Donc, le hadith de Omar ibn al-Khattab, du prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les actes ne valent que par les intentions pour lesquels ils ont été accomplis. Et chaque personne ne sera rétribuée qu'en fonction de son intention. Quiconque émigre pour Allah et son messager verra son émigration comptée pour Allah et son messager. Quant à celui dont l'émigration est accomplie pour acquérir quelque chose de ce bas monde, ou dans le but d'épouser une femme, alors son émigration n'aura d'autre rétribution que ce pour quoi elle a été accomplie. Ce hadith, avec ce texte-là que l'on a cité, il n'est ni dans le Bukhari et Muslim exactement comme ça. En fait, c'est un hadith composé de deux hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari. C'est un hadith ici, la manière dont il est cité, c'est deux hadiths authentiques qui sont dans Sahih al-Bukhari, et ils ont été composés des deux en un hadith ici dans l'Arba'in. Dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions. An-niyya. An-niyya, dans la législation islamique, c'est la volonté du cœur de faire un acte pour s'approcher d'Allah. C'est la volonté du cœur de faire un acte pour s'approcher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette niyya, cette intention, elle est de 3 degrés ou de 3 types. Son premier degré, c'est l'intention pour laquelle on fait l'acte. C'est-à-dire, cette intention qui différencie un acte d'un autre, dont l'image apparente est commune. Un exemple simple. Une personne se lave parce qu'il a envie de se rafraîchir ou se nettoyer. Une autre personne se lave dans l'intention d'être en état de pureté majeure ou de dégager de lui l'état d'impureté majeure. En apparence, c'est la même œuvre. Mais ce qui différencie l'un de l'autre, c'est quoi ? L'intention. Donc, le premier degré, c'est l'intention de l'action. Celle avec laquelle on différencie une adoration d'un acte de la vie courante et celle avec laquelle on différencie les adorations entre elles. Le deuxième degré, c'est l'intention pour qui on fait cette action. C'est-à-dire le fait que l'on veuille par cet acte le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Est-ce qu'on fait cette action pour Allah ou pour autre que lui ou pour Allah et autre que lui? C'est-à-dire on lui a donné un associé dans l'acte qu'on a fait. Ce qu'on nomme l'ostentation, par exemple. Le troisième degré, c'est l'objectif pour lequel on a fait cet acte. Quelle récompense en attend-on? Est-ce qu'on en attend une récompense dans ce bas monde? Ou est-ce qu'on en attend une récompense dans l'au-delà? Ou est-ce qu'on en attend une récompense dans ce bas monde et dans l'au-delà? Donc l'intention, elle est de combien de degrés? 3 degrés. L'intention dans l'acte, l'intention pour qui on fait l'acte, et l'intention pourquoi on fait l'acte. Pour quel objectif, pour quelle récompense, quelle rétribution on fait cet acte. Ces 3 cas font partie de an-niyya, l'intention. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par les intentions pour lesquelles ils ont été accomplis et chaque personne ne sera rétribuée qu'en fonction de son intention. Ici on a 2 phrases complètes qui chacune comporte une information complète. La première phrase, c'est l'information du statut juridique sur l'acte accompli. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. La deuxième phrase, elle porte l'information sur le statut juridique de la personne qui a accompli l'acte. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et chaque personne ne sera rétribuée qu'en fonction de son intention. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir exposé cela, a voulu donner un exemple pratique de cette règle. Quel est cet exemple pratique ? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Quiconque émigre pour Allah et son messager verra son immigration comptée pour Allah et son messager. Donc, celui dont son immigration est pour Allah et son messager, dans son intention et dans son objectif, alors il aura comme résultat ce pourquoi il a eu l'intention de faire cet acte. C'est-à-dire que sa récompense incombera à Allah et que Allah tabaraka wa ta'ala acceptera son acte. C'est ça la compréhension pratique de la première phrase ou des deux premières phrases qui sont citées. Donc son action sera acceptée par Allah et il sera récompensé pour son acte. Par contre, quant à celui dont l'immigration est accomplie pour acquérir quelque chose de ce bas monde ou dans le but d'épouser une femme, alors son émigration n'aura d'autre rétribution que ce pourquoi elle a été accomplie. C'est-à-dire, cette émigration n'a pas été accomplie pour Allah et pour son messager, mais pour d'autres objectifs. Le premier objectif, c'est le commerce. Et le deuxième objectif, c'est le mariage. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici, a donné comme exemple la hijra? Premièrement, l'image, l'apparence de l'acte est la même. Une personne quitte un endroit pour un autre. N'est-ce pas? Dans l'apparence de l'acte, on ne peut pas savoir la réalité de son acte. Entre celui qui l'a fait pour Allah et son messager, entre celui qui l'a fait pour commercer, entre celui qui l'a fait pour se marier, entre celui qui l'a fait pour un autre objectif. Donc, avec cet exemple, il a bien démontré que l'intention différencie dans la valeur et l'acceptation de l'œuvre, de même qu'elle différencie dans la valeur et l'acceptation de celui qui commet l'œuvre, celui qui pratique l'œuvre. Bien qu'en apparence, c'est la même chose. Deuxièmement, il faut savoir que les Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aimaient beaucoup leur terre. Ils aimaient leur pays, leur contrée. Ils y étaient très attachés. Ils se vantaient même de la terre de leurs ancêtres. Et quand l'islam est venu instaurer cette adoration qui est la hijra, délaisser une terre de mécréance vers les terres d'islam. C'était quelque chose qui n'était pas connu chez les Arabes de quitter leur terre comme ça pour rien. Ils la quittaient que s'il y avait une nécessité. Aller commercer, revenir, ou bien combattre, ou bien parce qu'ils se sont fait expulser par des envahisseurs. Sinon, ils ne sortent pas de leur terre. Donc, cette adoration, cet acte précisément, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu différencier entre les musulmans et les mécréants. Les musulmans sont ceux qui faisaient les jirs pour Allah, et les mécréants sont ceux qui restaient dans leur terre avec leur mécréance. Donc c'était un acte vraiment spécifique aux musulmans à cette époque-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu démontrer que cet acte aussi, qui est spécifique aux musulmans, si il n'est pas fait avec la bonne intention, alors la personne ne sera rétribuée que ce pourquoi il a accompli cet acte. L'exemple ici est donné pour la hijra, mais c'est valable pour toutes les adorations. Toutes les autres adorations sont à l'exemple de la hijra concernant cette règle religieuse. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ماليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc le deuxième hadith, d'après Omar ibn al-Khattab aussi, radiallahu anhu, il a dit: alors que nous étions assis un jour auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs, aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui et aucun parmi nous ne le connaissait. Il s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il appuya ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses deux mains sur ses deux cuisses et il dit: « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » L'islam, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu témoignes qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la salat, la prière, que tu donnes la zakat, l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison si tu en as les capacités. L'étranger dit: tu as dit vrai. Nous nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. L'étranger dit: informe-moi donc sur la foi, el-Iman. El-Iman, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour dernier, et que tu crois dans le décret, qu'il s'agisse dans son bien ou dans son mal. L'étranger dit: tu as dit vrai. Puis l'étranger dit: informe-moi sur l'ihsan, qu'on pourrait traduire par la perfection et la bienfaisance, mais on va voir après. La perfection, ajouta-t-il. Informe-moi sur la perfection, ajouta-t-il. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. L'étranger dit alors: informe-moi sur l'heure de la résurrection. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étranger dit: informe-moi sur ces signes précurseurs. Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux gardiens de bêtes rivaliser dans l'élévation des constructions, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'homme s'en alla. Je restai un bout de temps sans rien demander sur cette affaire. Ça c'est Omar qui parle. Je restais un bout de temps sans rien demander sur cette affaire. Puis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: sais-tu qui est venu m'interroger? Allah et son envoyé le savent mieux que moi, lui dis-je. C'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ce hadith à lui tout seul, on pourrait en faire des cours jusqu'à pendant 2 ans. mais l'objectif ici c'est d'en comprendre le sens général. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, et dans la version que Al-Hafiz al-Nawawi l'a rapporté, il y a certains mots que l'on ne trouve pas dans les versions manuscrites ou imprimées de Sahih Muslim. Mais il est possible qu'elles aient pu exister dans les imprimés ou dans les manuscrits anciens, pas d'imprimés, dans les manuscrits anciens. Quelques mots comme Julus, nous étions assis auprès de cette phrase, ce mot assis, il n'est pas dans les versions de Sahih Muslim qui existent entre nos mains aujourd'hui. Pareil, la parole qala li ya Omar, il m'a dit. Ma, qala li, il a dit à moi, ce li, pareil dans les versions existantes aujourd'hui, on ne l'a pas, on a juste qala, il a dit. Quoi qu'il en soit, ça c'est juste pour la précision du hadith. Donc, on voit dans ce hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de venir s'asseoir autour de lui pour profiter de ses enseignements, pour le questionner, pour vivre au quotidien avec lui les événements, pour après nous les transmettre comme ils nous sont arrivés aujourd'hui. Parmi ces événements-là, un jour ils étaient assis auprès de lui, un homme est arrivé, ils ne le connaissent pas. C'est pas un homme qu'ils ont l'habitude de croiser. Donc ils se sont dit, ça doit être un étranger. Mais le souci, c'est que ses vêtements étaient impeccables. Et ses cheveux étaient tout noirs, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune trace de voyage sur lui. C'est-à-dire, et on ne le connaissait pas, et il n'avait pas de trace de voyage sur lui. Donc il était étrange pour eux. Cet homme-là est venu, il a posé ses genoux, il s'est assis et il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans la version de Abi Huraira et Abu Dharr, dans Nasa'i, avec une chaîne de transmission authentique, où c'est clairement dit, il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ici dans cette version, il a dit, il a posé ses mains sur ses cuisses. C'est, on n'arrive pas à savoir si c'est ses propres cuisses ou les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Mais dans la version de Nasa'i, il est dit clairement, il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça aussi, ça a étonné les compagnons. Cette proximité. Un étranger vient, il colle ses genoux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met ses mains sur ses cuisses. C'est pas n'importe qui met les mains sur les cuisses de quelqu'un. C'est qu'il est proche de lui. Il le connaît. N'est-ce pas? Puis, il lui a dit, informe-moi sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre sur les 5 piliers de l'islam. Ceci, on va l'expliquer dans le prochain hadith. Dans le hadith numéro 3 qui parle des 5 piliers d'islam, inshallah. Puis, il lui a dit, informe-moi sur l'iman, sur la foi. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier et à la destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'iman, dans la législation islamique, il peut avoir plusieurs sens. Un sens général, un sens précis. Le sens général de l'iman, c'est toute la religion avec laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la religion qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la réalité de cela, c'est de reconnaître de manière certaine, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de manière à ce qu'on fait cela comme si on voyait Allah, si on ne le peut pas, alors on est en conscience qu'Allah nous observe. Ça c'est la définition générale de l'iman. C'est-à-dire la pratique de la religion de la meilleure des manières. En résumé, c'est ça. La pratique de toute la religion révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec perfection. Avec perfection. Mais ici, c'est le sens, c'est un sens précis qui est voulu de l'iman. Ce qui veut dire les croyances internes. Et ce sens précis, il est voulu quand l'iman, il est cité en même temps que l'islam et l'ihsan. C'est-à-dire, iman et islam et din, ce sont des mots quand ils sont cités de manière séparée, ils ne sont pas unis ensemble dans un même texte, ils sont synonymes l'un de l'autre. L'iman, c'est la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam aussi, et le din aussi. N'est-ce pas? Par contre, quand ils sont réunis, l'islam prend un sens plus précis, qui sont les actes apparents, et l'iman prend un sens plus précis, qui sont les croyances cachées, intérieures. Qui sont les croyances intérieures. Et c'est cela qui est voulu ici dans ce texte. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les six piliers de la foi. Ça aussi à lui tout seul, on pourrait les expliquer longtemps. Je vous encourage à revenir à une explication que j'ai faite en 10 cours, qui est l'explication du livre de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe des musulmans. C'est ce livre-là, en fait, il explique les 6 piliers de la foi. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité que les piliers de cette foi-là, c'est-à-dire ces bases essentielles sur lesquelles le reste des points de la foi repose, sont au nombre de 6. La croyance en Allah, la croyance en ses livres révélés, la croyance aux anges, la croyance en Allah, la croyance aux anges, la croyance en ses livres révélés, la croyance aux messagers, aux envoyés, la croyance au jour dernier, et la croyance au destin bon ou mauvais provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, dans le hadith, Jibril a dit, informe-moi sur l'ihsan. Et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Al-ihsan, il peut avoir aussi 2 sens. Le premier sens, c'est le fait de faire parvenir le bien. Et ceci n'est spécifique qu'aux créatures, car nous on ne peut pas faire du bien à Allah. On ne peut ni lui nuire, ni lui faire du bien. Donc là, on pourrait le traduire par la bienfaisance. C'est pour ça que traduire l'ihsan ici par la bienfaisance, c'est une erreur. Car on ne peut pas être bienfaisant envers Allah. La bienfaisance, elle est spécifique envers les créatures. Et ceci concerne tous les types de bien et de bienfaisance et de bonté et de miséricorde envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens de l'ihsan, c'est l'itqan, la perfection, la recherche de la perfection. L'itqan. Et ceci, cela peut être autant pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on fasse nos adorations et nos actes de dévotion de manière à chercher la perfection dans la manière de les accomplir. Comme si tu voyais Allah. Si tu adores Allah comme si tu le voyais, comment tu vas faire ton acte? Si tu n'arrives pas à le faire comme si tu le voyais, alors au moins sache qu'il te voit. Il te surveille. Donc, si tu n'arrives pas à le faire comme si tu le voyais par espoir, par amour, alors au moins par crainte, tu sais qu'il te surveille, subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il te surveille et qu'il te voit. Et cette perfection, elle peut se manifester aussi pour les créatures. Donc quand c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de parfaire ses aspects extérieurs et intérieurs dans la manière dont on adore Allah, comme si on le voyait ou en se sentant surveillé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la, chercher la perfection dans nos interactions avec les créatures, c'est le fait de leur donner leurs droits. C'est le fait de leur donner leurs droits et leurs dûs. Donc c'est pour ça qu'on pourrait traduire au mieux l'ihsan par la perfection, plutôt que la bienfaisance, qui est quelque chose de spécifique envers les créatures seulement, et non pas envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Puis, dans le hadith, Jibril alayhi salam dit, informe-moi sur l'heure. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. Alors lui dit, donne-moi alors des signes de l'heure, des signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en a cité deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui en a cité deux parmi les signes de l'heure qui sont nombreux. Il y a des savants qui ont fait des livres exprès qui parlent des signes de l'heure, que ce soit anciennement ou parmi les savants contemporains ou les chercheurs contemporains. Parmi les livres dans lesquels on retrouve les signes de l'heure, c'est At-Tadhkira d'Al-Qurtubi. At-Tadhkira d'Al-Qurtubi, qui parle de tout ce qui concerne la vie après la mort, et il parle justement des signes de l'heure. Et parmi les contemporains, il y a plusieurs qui ont écrit dans ce domaine. Il y a même un cheikh ici des Émirats, cheikh Mohamed Reis Al-Reis. Il a fait son doctorat au Maroc sur les signes de l'heure. Donc là, il n'en a cité que deux. Il faut savoir que les signes de l'heure, ils sont très nombreux. Il y a des petits signes, des signes moyens et des grands signes. Et les grands signes, leur particularité, c'est que quand ils arrivent, ils s'enchaînent tous. Quand l'un arrive, le reste s'enchaîne. Alors que les petits signes, il peut y avoir un grand laps de temps entre l'un et l'autre. Et un des derniers petits signes, c'est l'avènement du Mehdi. Car juste après, c'est à ce moment-là que Isa alayhi salam descendra, etc., etc. Donc les grands signes s'enchaîneront. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi salam a cité deux signes parmi les signes de l'homme. Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, rivaliser dans la hauteur de leur construction. Puis, Omar ibn Khattab cite que l'homme s'en alla. Et que Omar est resté comme ça, sans rien demander sur cette assise, et comme il est venu d'une manière authentique, dans la version de Abu Daoud, de manière authentique, que cette période où il est resté sans rien demander, c'était 3 jours. 3 jours. Après ces 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit, « Sais-tu qui est cette personne, ce questionneur ?» Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, de répondre, « Allah et son messager le savent mieux. » Cette formulation était une habitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les questionnait, quel jour on est, connaissez-vous ceci, connaissez-vous cela, ça c'est une pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner. Questionner pour attirer l'attention de l'étudiant. Et ils répondaient, ils avaient l'habitude de répondre, Allah et son messager le savent mieux. Maintenant une question. Est-ce que, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est légal de dire Allah et son... Quelqu'un, par exemple, vient te voir aujourd'hui, te pose une question, tu dis Allah et son messager le savent mieux. Est-ce qu'on peut dire ça? S'il s'agit de choses de statut juridique, halal, haram, sunna, bid'a, nafila, etc., mustahab, makruh, on peut dire Allah et son messager le savent mieux. Car effectivement, même si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais ces choses, c'est lui qui les connaît mieux que nous. N'est-ce pas? Par contre, s'il s'agit de choses de la vie courante, qui ne sont pas des statuts juridiques, est-ce que tu as vu Mohamed aujourd'hui? Tu sais où est Mohamed aujourd'hui? Allah et son messager le savent mieux. Non, le messager il ne sait pas ça. Il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaît pas où il est Mohamed aujourd'hui. Donc ça, c'est faux de le dire. Donc on peut le dire pour les questions religieuses, sur lesquelles il y a un statut juridique, ou sur les questions liées à la croyance, mais on ne peut pas le dire sur les choses de la vie courante. On dit juste Allahu A'lam. Allah c'est mieux. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré à Omar ibn Khattab que Jibril, il est venu spécialement pour leur enseigner leur religion. C'est-à-dire les points essentiels de leur religion et les degrés de la religion. L'islam, l'iman et l'ihsan. On comprend aussi de ce hadith, on peut tirer comme leçon de ce hadith, qu'il fait partie de l'enseignement de poser des questions. Il fait partie de l'enseignement de poser des questions. Comment ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Jibril, il a dit, il est venu vous enseigner votre religion. Est-ce que Jibril a dit quelque chose? Il n'a rien dit, il a juste posé des questions. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? À quand l'heure? Quels sont les signes de l'heure? Il est parti. Comment on peut dire alors il a enseigné? Car en fait, il a suscité la réponse pour que les autres membres de l'assise aient la réponse en posant cette question. Donc c'est une forme d'enseignement. On va donner une image contemporaine de cette situation. On est dans une assise. Entre frères, ou avec des gens, peu importe. Et on voudrait faire profiter d'une science, d'une question religieuse à l'assise. Et on sait que dans cette assise, il y a un savant ou un étudiant en science dont les gens pourraient profiter. Donc, même si je connais la réponse, je vais lui poser la question. Cheikh, quel est le statut juridique de telle chose? Moi, je la connais la réponse, je ne la demande pas pour moi, la réponse. Je la demande pour qu'elle soit enseignée pour les autres. C'est ce que Jibril alayhi salam a fait. Et aussi ça, c'est une chose importante à faire. Quand on est dans une assise avec des gens, pour éviter que les gens transgressent dans leurs paroles concernant les points de la religion, il est toujours bien, si une personne de science est présente dans l'assise, de le faire connaître. Non pas en lui faisant des louanges, non pas en le montant devant les yeux des autres, mais par exemple en lui posant une question. Comme ça les gens comprennent que il y a une personne ici qui connaît la religion. On ne peut pas se permettre nous de raconter n'importe quoi, on va préférer lui demander. Parfois, dans des assises, il y a des savants, personne ne sait que c'est un savant. Les gens se permettent de dire halal, haram, ils discutent, ils polémiquent, ils débattent. Même si le savant il leur dit c'est pas comme ça, il dit ouais qu'est-ce que t'en sais, il élève sa voix sur lui, il ne le respecte pas. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette démarche-là. Dans une assise où il y a une personne qui a une science dont les gens pourraient profiter, on le fait savoir aux gens. Comment? En lui posant la question, par exemple. Pas besoin de... On ne va pas dire, lui, c'est un cheikh, etc. C'est pas permis de faire des éloges à quelqu'un devant lui, sauf avec nécessité, sauf quand il y a besoin. C'est déjà arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait des éloges à Abu Bakr devant lui. Ça c'est dans le cas où on sait que la personne ne sera pas touchée par ses éloges et pour défendre son honneur par exemple. Quelqu'un a attaqué son honneur, là on fait ses éloges. En réponse à celui qui a attaqué son honneur. Mais sinon, à la base on ne fait pas les éloges de quelqu'un devant lui. On fait ses éloges quand il n'est pas là. Pour éviter d'être une tentation pour lui. Pour éviter que ce soit une arme que Shaytan utilise contre lui et que cette personne après il se forge des illusions sur lui-même ou bien ne serait-ce qu'une pointe d'orgueil entre dans son cœur ou bien même si rien de tout cela mais qu'il apprécie les louanges des gens. En vérité, un croyant sincère, il n'a que faire des louanges des gens et il n'a que faire de leurs critiques. Il parle et il agit en fonction de ce qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, même si le monde entier est contre lui. Malheureusement, aujourd'hui, même dans le monde de l'islam et dans le cercle des musulmans pratiquants ou même des étudiants, certains sont touchés par cela. Ah, moi j'ai plus de suiveurs, ah, nous on est beaucoup donc on a raison. La vérité, elle n'a jamais été du côté du nombre. La vérité, elle n'a jamais été du côté du nombre. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah dans le Coran, quand il parle de la majorité, souvent c'est pour la blâmer, non pas pour lui faire des éloges. Il se peut qu'à une époque parmi les époques, les gens de la vérité soient en plus grand nombre. Mais en général, ils sont en plus petit nombre par rapport aux gens du fond. Al-Hadith al-Thalith. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. دابخ أبو عبد الرحمن Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: l'islam a été bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, de la prière, l'acquittement de la zakat, l'aumône légale, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, et celui qu'on a cité maintenant, c'est tel de Muslim. La version de Bukhari, le hajj, il est cité avant le Ramadan. Ou là, on a cité le hajj avant le Ramadan. Celle de Muslim, le jeûne, il est cité avant le hajj. Et ici, celle de Bukhari, le hajj, il est cité avant Ramadan. Avant le jeûne de Ramadan. Et dans la version de l'imam Muslim, il n'y a pas al-bayt ou hajj al-bayt. Il y a juste al-hajj, sans la maison. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que l'islam est bâti sur quatre ou sur cinq piliers principaux. Sur cinq fondements et piliers principaux. Et ici, l'islam, on a dit, il a deux sens. Il a un sens général qui est dans le même sens que le sens général de l'iman. Et il a un sens précis qui est les actes apparents. Les actes apparents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a cités ici un par un, les cinq piliers de l'islam. La double attestation de foi que la personne prononce pour entrer en islam avec sa langue. Ceci est une obligation. La foi d'une personne n'est pas acceptée sans qu'il la prononce avec sa langue, sauf celui qui n'est pas capable, le muet. Lui, on accepte de lui toute chose qui va dans le même sens. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « moi je suis croyant » et il ne veut pas prononcer la double attestation de foi, ça ne suffira pas. Sa foi ne sera pas acceptée. Il faut qu'il prononce la double attestation de foi. Car comme a rapporté le Bukhari, rahimahullah, il a dit « j'ai rencontré 300 parmi les savants, ils ont tous dit « la foi, c'est une parole et des actes. »« Qawlun wa amal » La parole du cœur, « kam daqair » La parole du cœur, la parole de la langue, les actes de la langue, du cœur et du corps. La parole du cœur, c'est quoi? C'est at-tasdiq, le fait de croire, de rendre vrai. La parole de la langue, c'est la double attestation de foi. Les actes du cœur, c'est l'amour, la crainte, la confiance totale, etc. L'espoir. Les actes de la langue, c'est par exemple l'évocation d'Allah. Les évocations qu'on dit avec la langue. Et les actes du corps, c'est la salat, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, etc. Voilà la foi. Qawlun wa amal. Les paroles et les actes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ici que l'islam, il est bâti sur cinq piliers, la double attestation de foi. L'accomplissement de la salat, ici, il parle de quelle salat? Les cinq prières qui sont faites en jour et nuit. Les cinq prières obligatoires. Il ne parle pas des autres prières ici dans les piliers de l'islam. l'acquittement de la zakat, l'acquittement de la zakat, qui, on parle ici de zakat qui est obligatoire, on ne parle pas de zakat al-fitr, même si elle est obligatoire, mais elle ne fait pas partie des piliers de l'islam, zakat al-fitr. Le jeûne du mois de Ramadan, donc c'est spécifique au mois de Ramadan, même s'il y a d'autres jeûnes qui pourraient être obligatoires, comme les jeûnes d'expiation ou autres, et le pèlerinage, au moins une fois dans la vie, à la maison sacrée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.